Et ce matin, je vous propose de chercher dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, pour voir une première parabole de Jésus. C'est une parabole, je crois, qui est autour du pardon. Je voudrais faire la lecture d'abord dans Luc, chapitre 17, versets 1 à 10. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi !» Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie des troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. » Nous avons fait que ce que nous devions faire. Un conjoint infidèle, des parents indifférents ou durs, les douloureux souvenirs d'abus sexuels, des enfants rebelles, une belle famille impitoyable, un abandon ou une jalousie, une trahison, une querelle entre frères, ou un patron ou un supérieur autoritaire, nous avons tous déjà été blessés dans nos vies. Et en réaction, la plupart du temps, à la blessure qui nous est infligée, à une telle souffrance, notre cœur qui est pécheur produit de l'amertume à son tour et nous devenons blessants à notre tour. Nous pensons à tort, ah, je suis devenu comme ça à cause de la blessure qu'on m'a infligée premièrement. Du coup, cette blessure passée ne se referme pas et augmente encore aujourd'hui, eh bien, notre rancœur qui pousse des racines dans nos cœurs très profondes. De ce fait, on n'arrive plus à se débarrasser de notre amertume. Elle devient comme notre identité. On dit, je suis comme ça à cause de ma blessure. Jésus dit ici, prenez garde à vous-même. Jésus connaît la fragilité de la nature humaine. Il connaît le monde déchu dans lequel nous vivons. Et il sait que nous sommes des pécheurs si prompts à blesser aussi les autres. Et pour déraciner cette amertume, il nous commande de pardonner. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit comment pardonner. Mais peut-être avant cela, je vous invite à examiner votre propre cœur et à vous poser la question, à qui ai-je besoin de pardonner? Peut-être que la personne est morte ou que vous n'ayez plus de contact avec elle. Peut-être est-ce un proche, peut-être est-ce une histoire très ancienne, peut-être c'était une histoire toute récente. À qui devez-vous pardonner? Peu importe, si vous avez été blessé, il vous faut pardonner. Et j'aimerais qu'on s'incline dans la prière un instant. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi pour entendre ta parole. Se rend compte que tu parles beaucoup du pardon, Seigneur, dans les Écritures. Toi-même, tu es venu pour offrir le pardon, pour délivrer nos cœurs de la puissance du péché et de l'amertume qui gagne nos cœurs si facilement et qui s'installe dans nos vies et produit de toutes sortes de mauvais fruits, d'épines. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pour que ce matin, en réfléchissant aux personnes à qui peut-être on doit pardonner, et Seigneur, on puisse entendre ta voix, que tu nous secours par Jésus-Christ. Amen. Tout d'abord, j'aimerais que l'on voit avant de pouvoir pardonner, il faut déjà penser peut-être à éviter de blesser les autres. Vous avez remarqué dans les versets 1 et 2, il est dit, il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Impossible. Et dans un monde déchu comme le nôtre, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandales, qu'il n'y ait pas des pièges, que nous ne soyons pas blessés d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Vous serez blessés, vous blesserez aussi les autres. C'est inévitable. Mais pour autant, c'est très grave. C'est pas parce que la chose est inévitable que c'est pas grave. La blessure, on l'a ressentie. Et on devrait comprendre ces choses-là et se souvenir de cela et se dire, c'est tellement grave que je dois apprendre à éviter de blesser les autres. Vous avez remarqué comment Jésus en parle? Il dit que le jugement nous atteindra, qui atteindra ceux qui provoquent la chute des croyants. Il les appelle ces petits. On a plein de petits dans l'Église, hein. S'il y en a un qui touche un de ces petits, ça va provoquer notre colère. Ça va provoquer notre désir de jugement, de justice. Dieu nous voit comme ces petits. Il dit, s'il y en a un qui touche un de mes petits, ça va provoquer ma colère. Ça va provoquer mon jugement. Il dit, c'est tellement grave à ses yeux, qu'il dit qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on mette son cou une pierre de moulin et qu'on le jette à la mer. Qu'il apprenne à nager. Non, qu'il meure. Jésus ne semble pas prendre la chose à la légère ici. C'était extrêmement sérieux. Le péché et la souffrance infligée à ses enfants est extrêmement sérieux. Il a subi la croix pour cela. La mort réclame est le salaire pour le pécheur. Oswald Chambers a dit, on parle avec désinvolture du pardon lorsqu'on n'a jamais été blessé. Mais une fois blessé, on sait que sans Dieu, nul ne peut pardonner à son prochain. Vous pouvez irriter vos enfants, vos frères, par des critiques incessantes et les porter au découragement. Vous pouvez entraîner dans l'erreur des croyants un peu faibles par un faux enseignement ou par un mensonge. Vous pouvez être pour eux une occasion de chute par votre comportement. Vous pouvez nuire profondément, scandaliser votre prochain, votre frère, par votre péché. Mes frères et sœurs, nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Et nous sommes par nature des occasions de chute potentielles pour les autres, pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi on doit apprendre à vivre avec sagesse ici-bas. Le croyant qui mesure la capacité de nuisance du péché, il va user de prudence dans ce monde. Il recherchera passionnément connaître et comprendre la parole de Dieu pour ne pas s'en éloigner. Il sera attentif à ceux qui l'entourent pour ne pas être pour eux une occasion de chute. Il veillera sur ses paroles pour parler d'une manière à édifier plutôt qu'à blesser. Il ressent avec douleur les conséquences du péché. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, il dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. » Une occasion de chute. Donc pensons à cela d'abord, avant de parler du pardon, pensons à la gravité de la blessure qu'on peut infliger aux autres. Et évitons de blesser. Mais aussi, il faut être prêt à pardonner. Ce sont les versets 3 et 4 qui nous y encouragent. Si vous passez assez de temps avec une personne, il est certain que vous arrivera un moment dans votre vie où vous devrez soit demander pardon, soit accorder le pardon. Là où deux ou trois pécheurs sont assemblés, des conflits vont émerger, c'est sûr. Nous le vivons tous les jours dans nos familles, dans nos couples, dans notre foyer ou dans notre travail. Et l'Église n'est pas exempte de cette réalité. Nous serons tous amenés, tôt ou tard, à demander ou à offrir le pardon à un frère, à une sœur. Ça, c'est une réalité de l'Église. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est une réalité quotidienne de la vie de l'Église. Le croyant, humble, est aussi conscient que le péché est inévitable. Il est conscient de sa propre nature de pécheur, de sa capacité, lui aussi, à blesser. Il est conscient aussi de ses propres chutes, de sa fragilité. Et c'est pour ça qu'il ne conserve pas de rancœur envers ses frères, parce qu'il est conscient que lui-même a besoin d'être pardonné. Alors, il agit comme il aimerait qu'on agisse envers lui, il pardonne. Jésus ici nous met en garde, hein, dans le verset 3, il dit « Prenez garde, au refus de pardonner ». Quand le pécheur se repent, il doit être pleinement pardonné. Ça, c'est verset 4. Et s'il venait 7 fois dans la même journée demander pardon, on devrait lui pardonner. Ici, Jésus, il nous présente un cas, quand même, une situation un peu idéale. Il y a quelqu'un qui a péché, il se repent, il demande pardon, et on lui pardonne. Facile. Néanmoins, vous avez remarqué le truc qui nous embête ici. Il dit 7 fois dans la même journée. Quand on le fait une fois, ça va, je te pardonne, aucun problème. Imaginez 7 fois dans la même journée, le même gars. Quand vous avez 2 frères, ça peut faire beaucoup, hein. Parce que Jésus, il ouvre ici une dimension au pardon qui confronte nos limites. Il nous dit, il nous ordonne, pardon, verset 4, « Tu lui pardonneras ». Il montre ainsi que le fait de demander pardon nous libère du poids de culpabilité, mais ne change pas immédiatement notre cœur. Il n'enlève pas pour autant notre capacité de pécher et de blesser nos frères. On aimerait vraiment que lorsqu'on pardonne à une personne, elle perd à jamais sa capacité à recommencer. Ok, je te pardonne. Dans notre pensée, c'est « recommence plus jamais ça ». Et Jésus dit 7 fois, dans la même journée. C'est-à-dire le lendemain, il peut recommencer 7 fois à nouveau. Et la question qui se pose à nos cœurs, c'est ça le problème. Et comment je vais pouvoir faire ça? Et puis l'autre question, c'est « Et s'il ne se repent pas ?» S'il ne se repent pas, s'il ne vient pas vers moi pour me demander pardon, qu'est-ce que je dois faire? Quand la personne est tellement repentante, « Oh, je t'ai blessé mon frère, je te demande pardon. Oh, allez, c'est bon. » Mais si la personne ne le fait pas, que dois-je faire? Vous savez, je crois que bien souvent, nous péchons sans préméditation. Plus ou moins inconsciemment. Regardez ce que dit Jésus dans Marc chapitre 11, verset 25 et 26. Il dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, c'était notre cas ce matin, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ici, il n'est pas question que le frère demande pardon, qu'il se repente et qu'il vienne vers moi. Il est simplement question de pardonner. Et je pense que, véritablement, nous devons, quand nous péchons, quand quelqu'un pêche envers nous, nous devons pardonner. Nous péchons en répondant avec irritation à notre épouse, à notre conjoint, en oubliant de faire quelque chose que nous nous étions engagés à faire. Nous péchons en manquant de prévenance envers un frère, en n'étant pas suffisant attentif aux besoins, à la peine, à la difficulté d'une sœur. Je crois que dans ces cas, il n'est pas question d'aller trouver le fautif et de lui dire « bon, maintenant, il faut que tu te repentes de ça ». Parce que si vous devez faire ça, vous allez faire la queue devant mon bureau. Non, je crois que Dieu nous demande ici de pardonner. Et le principe ici, c'est l'amour couvre une multitude de péchés. Et notre amour les uns pour les autres doit couvrir tous ces problèmes qui sont inhérents à notre nature humaine qui est tout le temps en train de piquer l'autre. Pour autant, quand on a réalisé qu'on a blessé quelqu'un, on devrait être conscient de cela et plutôt l'aider à nous pardonner en venant lui demander pardon, même si c'est une petite chose. Faites-le pour les petites choses, déjà. Ça, c'est de l'entraînement pour les choses les plus difficiles. Mais, si le pécheur ne se repent pas, on doit tout de même pardonner. Il y a d'autres cas, par contre, où le péché doit être confronté. Hein, le pécheur doit se repentir. Il s'agit de péchés plutôt volontaires, prémédités, habituels, des péchés qui sont devenus un peu le style de vie du pécheur. Et qui indique vraiment la direction qu'il suit. Il y a un problème là, et on va le voir, et on dit, mon frère, il faut que tu te repentes, tu pars, tu cours, tu blesses, tu suis un chemin vraiment tordu, repends-toi. C'est dans ce sens que s'appliquent les péchés auxquels on applique la discipline de l'Église, hein, en Matthieu 18. Ici, la seule issue pour le pécheur, pour retrouver la communion, hein, c'est une véritable repentance. C'est le cas dans les épîtres aux Corinthiens. Paul demande à un homme de se repentir, il ne veut pas se repentir, qu'il soit jeté dehors de l'église pour qu'il apprenne à ne pas blasphémier. Et puis, quelques temps plus tard, il apprend qu'il s'est repenti et donc il demande à l'église de Corinthe, mais c'en est assez maintenant, pardonnez-lui et restaurez-le dans votre communion. Comme nous sommes tous pécheurs, il est rare que nous n'ayons aucune responsabilité dans un conflit. Parfois le conflit, c'est simplement une offense, une maladresse, mais notre manière de réagir est tellement virulente qu'on blesse les autres à notre tour. Il m'a mal parlé, je lui parle mal. Pardon. Un partout. On a deux pécheurs maintenant, et deux qui doivent demander pardon, et deux qui doivent accorder le pardon. Et si on le fait pas tout de suite, le premier offensé va devenir offenseur à nouveau. Et ainsi de suite. Bon, on s'en sort plus. Pour mettre un terme à ça, il faut confesser, pardonner. Rares sont les cas où l'on puisse établir clairement la culpabilité de l'un et l'innocence totale de l'autre. Fréquemment, les deux parties restent campées sur l'idée que c'est à l'autre de se repentir. Et cela, parce qu'on est le plus souvent très sensible aux torts qui nous sont faits et qu'on a tendance à sous-estimer ce que nous avons eu envers nos frères. Parfois, on est tellement blessé, et ça, je pense que c'est le cas que Jésus évoque ici, on est tellement blessé que l'on ne souhaite même pas la réconciliation. On préfère la guerre, on préfère la séparation. Même, on serait très embêté que la personne vienne nous demander pardon. Parce que dans ce cas-là, on serait obligé de lui pardonner. Et nous préférons retenir l'offense et l'offenseur captif. Mais je crois que nous devons néanmoins pardonner, même si l'offenseur ne se repent pas et ne demande pas pardon. Et c'est pour cela que Jésus dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à votre propre cœur. Si nous ne pardonnons pas, nous allons nourrir fatalement de l'amertume. C'est comme si la personne reste en dette vis-à-vis de nous. Pardonner, au fond, c'est cesser de poursuivre l'autre en lui disant « paie ce que tu me dois ». La dette, elle est parfois financière, véritablement. Hein. Vous avez été volé ou lésé ou on vous a cassé ou perdu quelque chose. Et parfois, c'est votre réputation. Parfois, c'est votre honneur qui a été abîmé. Par la calomnie, la critique, la médisance. Et vous voudriez qu'il y ait réparation. Des excuses publiques, comme pour laver l'affront. Et ça n'arrive pas. Et vous restez dans l'amertume. Le pardon, c'est accepter de payer la dette. Soi-même. Tu as cassé quelque chose? C'est foutu? Eh ben, c'est de ma faute. C'est de ta faute, mais je vais racheter moi-même la chose. C'est ça que ça veut dire. Tu m'as blessé, tu as médit contre moi. Mon honneur a été abîmé. Je le prends sur moi. J'accepte la chose. Pardonner, c'est accepter cette perte. Pourquoi devrions-nous pardonner? Il y a plein de raisons que Jésus nous donne. Je voudrais en citer quelques-unes. La première, peut-être, c'est parce que le refus de pardonner entraîne le châtiment divin. Méditez là-dessus. Le refus de pardonner entraîne le châtiment divin. Vous avez remarqué, à chaque fois, il dit, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus si vous ne pardonnez pas. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on a perdu notre salut, qu'on est en route pour l'enfer parce qu'on... Non, je crois pas que c'est ça. C'est simplement, il nous laisse dans notre amertume. Il nous laisse dans notre refus de pardonner aux autres. Et ça gangrène nos cœurs, et les racines poussent dans nos cœurs, dans nos vies, et puis on est là, de toujours plus amer. On a perdu toute joie. Il y a un sentiment de vide dans nos cœurs. On devient dépressif. On vit dans l'ennui, dans le manque d'assurance, de joie. Moi, je crois que beaucoup de chrétiens peuvent vivre dans une situation comme celle-ci. Parce qu'ils ont refusé de pardonner et que Dieu les tient chargés de leurs fautes. La deuxième raison, c'est le refus de se réconcilier, entrave sérieusement notre culte que le chrétien devrait rendre à son Dieu. Il dit, si tu te souviens que quand tu es en train de louer le Seigneur, que tu te souviens que quelqu'un est contre toi, pardonne, parce que sinon ton culte y vaut rien. Si nous ne voulons pas un culte qui vaille rien, on veut un cœur net. Refuser de pardonner, c'est usurper l'autorité de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut pardonner? Parce que si vous pardonnez pas, vous usurpez l'autorité de Dieu. Romains 12, 19, hein, dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu seul possède la connaissance parfaite des offenses faites aux croyants qui vous sont faites à vous. Lui seul détient le pouvoir de juger correctement d'une situation. Lui seul est impartial. Lui seul est sage. Lui seul a toujours des actions selon sa parfaite sainteté. Et c'est précisément pour ça que Joseph, dans l'Ancien Testament, a pardonné à ses frères. Ils sont venus en train de lui dire, oh, notre père, quand, à la mort de Jacob, du père, ils disent, écoute les frères, écoute Joseph, il nous a dit, hein, avant de mourir, surtout pardonne à tes frères. Quelle est sa réponse? Il pleure de ça. Et sa réponse est, suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Est-ce que vous croyez que je suis Dieu pour être capable de juger correctement votre situation? Est-ce que je suis capable de juger le mal que vous avez fait, vos intentions? Non. Je suis pas capable. Alors je m'en occupe pas. Je lui remets la chose. Je vous pardonne. Je vous tiens aucun compte avec vous. Enfin, deux autres raisons que je trouve tellement fortes. Écoutez ça. Les torts infligés aux chrétiens sont des épreuves qui les perfectionnent. Comme l'écrit Jacques dans son épître, chapitre 1, verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Dieu, il sait ce que vous avez vécu. Il sait comment vous avez été blessé. Il connaissait les mauvaises intentions. Il savait toutes choses, mais il les a permises. Pourquoi ? Pour votre bien. Parce qu'il veut vous enseigner une vérité. Il veut transformer vos cœurs. Et cette pensée jette un éclairage vraiment différent sur les torts que nous subissons. Et ça nous encourage à suivre l'exemple de Jésus-Christ qui, injurié, ne rendait pas l'injure, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dans les années 1980, le fils de l'évêque de l'église anglicane en Iran, Hassan Dekani Tafti, son fils était âgé de 24 ans et il a été tué par des factions islamiques. Voici la prière de son père. Ô Dieu, le sang de notre fils a multiplié le fruit dans le jardin de notre âme. Aussi, quand au jour du jugement, ces meurtriers se présenteront devant toi, rappelle-toi le fruit de l'esprit dont ils ont enrichi notre existence et pardonne-leur. Le texte parallèle de cette parabole de Luc 17, c'est en Matthieu 18. Et au verset 7, il est dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Vous avez remarqué, il dit « Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. » Et en pensant à ça, je me suis demandez si Jésus ne dit pas « il est nécessaire qu'il arrive des scandales » parce qu'il a en tête précisément cet aspect-là. Les scandales, les blessures qui nous affectent servent à notre cause, servent à transformer nos cœurs, servent à nous faire ressembler à Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est nécessaire. Enfin, cinquième raison, pardonner, c'est l'acte le plus ressemblant à Dieu qu'une personne puisse accomplir. Éphésiens 4, 32 dit « Pardonnez comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Dans le grand classique de Victor Hugo, « Les Misérables », je sais que ça va vous plaire, Jean Valjean, bagnard, ayant expié une lourde peine injuste, cherche abri pour la nuit, et tombe chez Monseigneur Bienvenu, évêque de Digne. Dans la nuit, Valjean, à la fois motivé par l'amertume et par la convoitise, cède à la tentation de mettre la main sur les couverts en argent et s'enfuit avec. Quelques heures plus tard, il est rattrapé par les gendarmes et il le ramène chez Monseigneur Bienvenu. Il y a les initiales sur les couverts. Et il demande à Bienvenu de porter plainte. Et Bienvenu, l'évêque, il refuse de porter plainte et il affirme plutôt qu'il avait donné les couverts à Jean Valjean. Et puis, sous le regard stupéfait de la bonne, des gendarmes et surtout de Jean Valjean, Bienvenu va chercher aussi les chandeliers d'argent. Et il les lui remet. Et puis il le regarde dans les yeux. Et lui dit, Jean Valjean, mon frère. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition. Et je la donne à Dieu. Et c'est cette grâce extraordinaire qui est faite à Jean Valjean et qui transforme à jamais ce bagnard. Dans la suite du roman, Jean Valjean devient lui-même une figure de Christ. Il est un vecteur de salut pour toute une série de personnes. Il rachète littéralement Cosette en payant le prix aux Thénardier. Il sauve son sosie, qui a été faussement accusé, en prenant volontairement sa place. Il sauve l'imprudent fiancé de Cosette, Marius, en le portant sur son dos. Mais l'apothéose arrive quand il libère l'impitoyable inspecteur Javert, qui avait pourtant poursuivi Valjean de toutes les manières possibles, d'une manière acharnée pendant toutes ces années. Et tout cela parce que Valjean avait été touché par la grâce de Dieu. Il laisse partir Javert, qui ne le supporte pas d'avoir un bagnard bien plus gracieux que lui, et il se suicide. Tout cela est arrivé parce que Valjean avait été touché par la grâce de Dieu. C'est la grâce qui a fait naître dans son cœur la grâce pour les autres. Il est relativement facile de pardonner aux repentants qui en présentent des preuves. Mais l'éthique chrétienne nous appelle à dépasser la simple politesse et à aller au-delà de ce qui est normal. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Nous sommes appelés à suivre et à ressembler à Jésus-Christ. Et c'est là précisément que nous pouvons devenir semblables à Jésus-Christ en pardonnant. Lorsque nous pardonnons, nous déclarons que l'offenseur ne porte plus sur lui la faute. Quand nous avons pardonné à quelqu'un, ses fautes n'affectent plus notre manière de considérer cette personne. Parce qu'en le pardonnant, nous avons comme jeté ses fautes au fond de l'océan. Si nous rappelons des fautes, c'est que nous ne les avons pas réellement pardonnées. Le pardon n'est pas une espèce d'amnésie naïve, mais c'est un oubli volontaire. C'est décider que l'offense n'affecte plus notre relation fraternelle. Le pardon nous libère et libère aussi l'offenseur. Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner? Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner? Être prêt à demander pardon, ça c'est ce que l'on trouve au verset 4. Les mots les plus difficiles à prononcer sont probablement « J'ai eu tort, pardonne-moi ». Ou ici, tu diras « S'il te dit, je me repens ». Trois mots, mais tellement difficiles à sortir de nos bouches. Pourtant, il fait aucun doute que nous aurions tous besoin de les dire. Apprenez-les par cœur au besoin. Parce que normalement, vous devrez vous en servir fréquemment. Pourtant, on a tellement de mal. Comment réagissez-vous quand vous avez péché? Lorsque vous avez eu une mauvaise attitude ou lorsque vous avez blessé quelqu'un? Est-ce que vous vous justifiez? Est-ce que vous faites des reproches aux autres? Est-ce que vous ne dites rien et tentez de vous faire oublier? Est-ce que vous comptez sur le temps pour effacer un peu l'offense? Est-ce que vous excusez? Je m'excuse. Qu'est-ce que t'as dit? Non, je m'excuse. Et vous supposez maintenant que la personne a compris que vous lui demandiez pardon sincèrement pour telle offense? Est-ce que c'est comme ça qu'on procède? Ou est-ce que vous dites, j'ai eu tort de te parler comme ça? Citez, confessez votre péché. S'il te plaît, pardonne-moi. Je regrette vraiment de t'avoir causé de la peine. C'est-à-dire que vous allez vers la personne que vous avez blessée dans une attitude sincère et humble. Vous reconnaissez votre péché et vous demandez à la personne de vous pardonner. Enfin, vous êtes conscient aussi de la douleur que vous avez engendrée chez cette personne. Et vous exprimez votre compassion envers elle. Si nous voulons connaître des relations fraternelles, il faut vraiment apprendre à demander pardon. On a ce genre d'exercice dans notre famille. Quand un membre de la famille, que ce soit les parents ou les enfants, a eu tort, s'est trompé, a mal agi, bref, a péché. La plupart du temps, il commence à expliquer les circonstances et à se justifier et puis à accuser les autres. Et les autres disent, et alors? Et alors, il y a un combat qui se livre là. Et on redonne des manières de se justifier encore. Et il y a cette lutte là encore pour se défendre. Et les autres insistent, et alors? Et l'affaire ne se termine que quand la personne dit « Alors j'ai eu tort, alors je vous demande pardon. » Et nous on dit « On t'aime quand même. » Mais vous savez, ces petits exercices-là, ça sert. On doit apprendre à demander pardon. Et puis, il nous faut aussi reconnaître notre faiblesse. Ça c'est le verset 5 et 6. Après avoir donné un tel enseignement sur le pardon, les apôtres sont confrontés à leur propre faiblesse. Pour eux, comme pour nous, c'est tellement dur. Éviter de blesser, pardonner, demander pardon, ça semble tellement impossible des fois. Et pourtant, les disciples, ils savent que c'est juste. Ils savent que c'est exactement comme ça qu'il faut agir. Et on sait ça dans nos cœurs. On sait que la seule manière d'être pardonné, c'est de demander pardon. La seule manière de retrouver la communion avec ce frère, c'est de lui pardonner. Mais j'arrive pas à le faire. Pardonner, c'est pas facile. C'est un sacrifice. Bienvenue, il a plus de couvert en argent, il a plus de chandelier. Il y a un sacrifice. On renonce à rendre le mal pour le mal, en répondant au mal par le bien. Si on s'attend que pardonner soit une chose facile, on pourra toujours attendre. C'est difficile parce que l'offense, elle nous blesse. Et c'est pour ça que les disciples viennent voir Jésus au verset 5 et puis disent « Mais augmente-nous la foi. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Augmente-nous la foi !» C'est vraiment l'aveu que la chose est au-delà de leur force. Ils reconnaissent, oui, c'est juste, c'est bon, on devrait faire ça, c'est ta volonté. Mais augmente-nous la foi, on n'a pas la capacité à le faire. Et regardez ce que Jésus dit au verset 6. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore. Le sycomore, c'est un arbre qui est tellement difficile à déraciner parce qu'il a des racines tellement profondes. Et il dit, si vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. J'aime ça. La foi, c'est de dire simplement, je fais confiance que sa volonté est bonne, parfaite. C'est ce qu'il veut. J'ai pas la force. Alors augmente-moi la foi. Seigneur, je te demande de produire ça dans mon cœur. Je te demande de m'aider à pardonner. Quand vous commencez à prier, Seigneur, aide-moi à pardonner, c'est gagné. C'est gagné parce qu'il va répondre à cette prière. C'est ce qu'il veut faire. Le sycomore est déjà bien ébranlé. Les racines d'amertume sont en train de lâcher. Et vous allez bientôt connaître cette délivrance. Ce qui semblait impardonnable est déraciné de votre cœur. Les gens humbles sont des gens qui reconnaissent leur faiblesse et demandent la force à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons par l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs. Vous voulez pardonner, mais la chose vous semble au-delà de vos forces. Elle l'est. Demandez à Jésus de vous secourir. Tournez vos regards vers son œuvre à la croix. Et vous, il vous rendra capable de pardonner. Demandez-lui, Seigneur, secours-moi. J'ai besoin de pardonner. Je veux pardonner. Ou viens m'aider à vouloir pardonner. Ou délivre-moi de l'amertume qui gagne mon cœur. Aide-moi à regarder à la croix, à l'offense que j'ai faite, que tu as payée pour moi. Puis enfin, il n'y a pas de mérite à pardonner. Ça, c'est les versets 7 à 10 avec cette petite histoire du serviteur inutile. Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner? Qu'est-ce qui nous empêche de demander pardon? Ce qui nous empêche de demander pardon, c'est notre besoin de passer pour des gens bien. Si je demande pardon, c'est que je suis un pécheur. Non, mais je suis un pécheur. Et donc, je lutte avec ça. J'aimerais être trouvé autrement que tel que je suis vraiment. J'aimerais être regardé comme quelqu'un de meilleur que ce que je suis en réalité. Et c'est pour ça que j'ai du mal à demander pardon. On craint de perdre notre place dans le sérail des gens de bien. Des gens qui sont bien, des gens qui... Voilà, qui... Et c'est pourquoi on veut se justifier. La réalité, c'est que nous ne sommes pas des gens bien, mais nous sommes des gens pardonnés par Jésus-Christ. Nous sommes des pécheurs qui avons besoin de se demander pardon et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est ce qui permet à une église comme la nôtre de vivre ensemble en communion constamment. C'est ce qui permet à nos familles de s'entendre, à nos couples de survivre. C'est pour la même raison que nous avons du mal à reconnaître notre faiblesse lorsqu'il s'agit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est la raison pour laquelle nous avons du mal à demander la force pour pardonner. Si je demande la force de pardonner, c'est que je suis pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai besoin d'être transformé. Mais notre cœur, il est tellement prompt à tourner à son avantage l'œuvre de la grâce qui se fait en nous, que l'on peut même se glorifier d'avoir pardonné. Là, on m'a fait vraiment une offense. Je te dis pas. Attends, si, je te raconte. Et puis, on raconte tous les détails. Oh, je vais pardonner. Et là, tout de suite, j'ai quelqu'un d'extraordinaire, j'ai pardonné. Et Jésus dit ici, quand vous avez fait ce que vous deviez faire, dites, je suis un serviteur inutile, je n'ai fait que ce que je devais faire. Et moi, je crois qu'ici, Jésus l'applique directement à ce qui vient au-dessus, c'est-à-dire au pardon. Le service, c'était quoi le service de Jésus? Jésus dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup d'hommes. C'est quoi servir? Dans la pensée de Jésus, dans ce verset-là, c'est pardonner. Il est venu pour pardonner, pour nous pardonner. Et quand il parle ici du service de cet ouvrier, je pense que c'est celui qui est venu, qui doit pardonner à son frère. Qui doit pardonner à ceux qui nous ont offensés. pour être appelés les enfants de Dieu, pour être véritablement les serviteurs du Dieu Très-Haut, de celui qui nous a pardonnés, qui nous a rachetés. Et c'est pour ça qu'il assimile dans notre la vie chrétienne à une relation d'esclave envers un maître puissant, Jésus-Christ. Hein, et que les serviteurs de n'ont pas à se vanter d'avoir servi. C'est comme si aujourd'hui on ferait la parabole un peu comme ça. Vous êtes embauché pour travailler de 9h du matin à 18h le soir. Vous vous attendez pas à ce que votre patron vous dise à 13h, écoute, c'est bon, t'as pas besoin de revenir cet après-midi. On aimerait, mais... Non, il vous redonne du boulot. Et puis, à la fin de la journée, il vous vient pas vous remercier. Non. Bah, vous avez fait ce que vous deviez faire. Et vous vous attendez pas à ce qu'il en soit autrement. Quand il nous dit « pardonnez », il nous dit « il peut pas en être autrement ». Vous ne faites que ce que vous m'avez vu faire. Vous êtes des enfants de Dieu qui vous a pardonné. Il peut pas en être autrement. L'application que Jésus donne au verset 10, c'est « dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait que ce que nous devions faire. » Si vous ne blessez pas les autres, si vous pardonnez et si vous demandez pardon, inutile de vous prendre pour un Seigneur. Vous n'avez fait que par la grâce de Dieu ce que vous deviez faire en tant que disciple de Christ. Quoi que nous fassions, nous ne méritons pas les bienfaits éternels dont nous sommes les héritiers. C'est à Christ seul que nous devons notre place au ciel. Nous devrions simplement le louer de tout notre cœur, de nous avoir rendus capables de lui ressembler un peu, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de nous réjouir du fruit de l'Esprit que la grâce de Dieu en nous a porté au travers des souffrances et des blessures que nous avons reçues. Souvenez-vous, le péché fait énormément souffrir. Alors vivez prudemment dans ce monde déchu. Quand votre frère ou quand votre ennemi a péché contre vous, pardonnez, déracinez le sycomore. Sinon, vous allez sombrer dans l'amertume. Quand vous péchez, demandez pardon. Et quand pardonner est au-dessus de vos forces, demandez avec foi le secours de Dieu. Et enfin, quand vous avez pardonné, rendez grâce à Dieu. Vous n'avez fait que ce que vous deviez faire en tant qu'enfant de Dieu. Et souvenez-vous, la première personne que nous avons offensée, c'est Dieu lui-même. Tout cela ne compte pour rien si vous n'avez jamais goûté au pardon de Dieu pour vos propres péchés. C'est pour cela que je vous invite à vous placer devant lui maintenant, à lui demander pardon pour vos offenses. Et si vous avez besoin de son secours pour pardonner à quelqu'un. Si vous avez besoin d'aller trouver quelqu'un et lui demander pardon, faites-le. Demandez la force au Seigneur pour qu'il vous accompagne.